Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Francis.
Salut Jean-François.
Voilà, vous êtes sur RTF 95,4 MHz sur la bande FM ou peut-être
sur le canal 6 du DAB.
Voilà.
Et je vous le recommande parce que maintenant j'ai fait des écoutes comparatives entre les deux systèmes d'émission et il n'y a pas photo. En DAB, c'est vraiment vachement bien. Le son, en particulier la musique classique. Qu'est-ce que ça pète?
Ça, c'est vrai.
Ah, c'est brillant.
C'est vrai.
Donc, si vous n'êtes pas encore équipé d'un petit poste de DAB.
Oh, ça coûte que dalle. En
plus. Et puis, si vous avez une bagnole récente, vous l'avez peut-être sans le savoir. Il y a des gens qui l'ont sans le savoir.
Ouais.
Voilà. Et puis, oui.
Voilà. Donc, c'est une émission qui est consacrée à la littérature, au jazz et à la musique classique.
Et alors, je vois des livres posés
alors,
sur la table.
Alors, vous voyez des livres. Alors, c'est des livres très récents.
C'est des vrais livres en papier.
Ah, oui, c'est des vrais livres en papier. Il y en a un qui est édité chez Gallimard et l'autre qui est édité chez Gallimard.
Mais pas dans la même collection.
Voilà, alors nos livres ce soir, Monica Sabolo, La vie clandestine, roman, mais c'est une... Elle a un nom à consonance italienne, mais elle l'écrit bien en français et c'est bien une française. Alors ça s'appelle roman, enfin, c'est assez bizarre. Et puis alors, le dernier livre de Jonathan Coe, très... très connu romancier anglais, très à la mode.
Le Royaume des Unis,
voilà. Et je sais pas pour, enfin si je sais pourquoi ils ont choisi de l'appeler comme ça, pourquoi les éditeurs, mais
ne spoilez pas, vous nous le direz.
Non, mais je spoile pas, mais c'est le titre original que je cherche n'a à peu près rien à voir. Que je ne dise pas de bêtises. Bon, mais évidemment, je ne le retrouve pas.
Voilà, vous le direz tout à l'heure.
Comme d'habitude.
Eh ouais. Bien.
Voilà. Et puis alors, musique classique. Alors, écoutez, je suis allé chercher des choses un peu rares. Voilà. Je vais vous dire. Je vais vous dire presque immédiatement.
Ah bah oui.
Mais
oui.
Je vois que vous avez une pile de disques.
Ouais, bon, si j'ai du jazz. Alors, j'ai fait du ménage dans ma discothèque et j'ai trouvé des vieilleries. j'ai presque honte.
Mais il y en a une qui est dédicacée à la plume d'oie et la dédicace est écrite en latin par Charlie Parker.
Oh, vous avez raison, c'est un disque de 1950. J'ai absolument honte.
Mais attendez, pas du tout. Alors, vous savez.
Si, parce que je m'étais engagé
je reçois déjà devant vous
et devant les auditeurs à ne passer que des disques publiés au 21e siècle.
Oui, mais moi, je viens de recevoir. Là, tout de suite, là, un SMS de nos amis de Swing FM qui disent bravo qu'ils continuent.
Je ne sais pas s'ils sont amateurs de Charlie Parker. J'en poserai la question la prochaine fois qu'on se voit.
Alors, je reviens au titre original, c'est Bondville. Bondville, c'est une ville imaginaire. Et voilà, je vous dis, ça n'avait rien à voir avec le titre original, le Royaume des Unis. Et vous verrez pourquoi Jonathan Coe l'a appelé ainsi. Voilà. Alors,
qu'est-ce que vous avez trouvé comme rareté pour notre premier
classique ? Alors, c'est des raretés. Figurez-vous, je ne vous cache rien. Je vois bien aujourd'hui, ce soir, nous disons tout, à peu près.
Tout.
Presque.
Même
presque. Presque. Alors, voilà. Donc, vous savez... Et nos auditeurs savent sans doute que les maisons de disques envoient, parfois, pas toujours, mais ils envoient un CD avec des extraits des musiques qu'ils vont éditer pendant l'année.
Oui, voilà, un extrait catalogue d'avant-première.
C'est exactement ça. Et alors, donc j'ai retrouvé dans ma discothèque, j'ai retrouvé un disque d'Harmonia Mundi qui était une série d'extraits. Et j'ai trouvé assez sympathique. Alors on peut pas l'acheter, hein, mais on peut pas acheter le catalogue, mais on peut acheter le disque bien sûr. Voilà, c'est le Stabat Mater de Rossini. Hein. Voilà, Rossini, très bon génie multiforme, qui a écrit aussi bien des opéras bouffe. Galant comme le Barbier de Séville, et puis aussi ce qu'on appelait à l'époque des opéras seria. Alors par exemple Moïse en Égypte, qui est un opéra, tout ce qu'il y a de seria. Et puis également ce que Rossini a appelé les péchés de ma vieillesse. Il y a toute une série d'œuvres, Petite Messe, etc. Toute une série d'œuvres très intéressantes et très très bien écrite parce
que je croyais que les opéras, je croyais que les opéras seria c'était ceux qu'on écoutait en regardant des matchs de foot de première division en Italie.
Série A, mais je suis pas sûr qu'on dise ça en Italie. Vous croyez que la première division ça dit Serie
A? Oui,
oui,
c'est la Serie A.
En oh, Italie. Je vous fais confiance.
Oh, vous pouvez.
Vous savez, on se cache rien. Les opéras seria, c'était peut-être on en parlera un jour. C'était les opéras sérieux.
Bien sûr.
Donc avec les livrets qui étaient des histoires mythologiques ou d'histoires. Alors c'était souvent des livrets extrêmement complexes avec une musique qui avait été écrite alors très souvent pour les castrats qui étaient des virtuoses incroyables. Voilà, c'est les opéras seria. Et puis à côté de ça, il y avait les opéras bouffa. Bon, mais on n'est pas là pour parler de l'histoire de l'opéra parce qu'on n'aurait pas le temps.
Non, on est là pour écouter.
Alors on est là pour écouter cet extrait du Stabat Mater de Rossini.
Oh,
Voilà, c'était le Stabat Mater, vous savez, Stabat Mater Dolorosa, etc. De Rossini, il y en a un célébrissime, c'est celui de Pergolèse,
ben oui,
qui est sans doute le plus connu. Mmh. Et puis il y en a un Vivaldi qui est très beau, puis il y en a voilà. C'était un tube à l'époque. Bon, mais comme est un tube. Alors attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce disque 78 tours que vous avez extrait de votre sac, Francis?
Alors attendez, parce que ça a démarré sans que je l'ai voulu. C'est un. Je vous dis, j'ai fait le ménage dans ma discothèque,
voilà.
Et tout à fait derrière, tombé dans la poussière,
oui.
J'ai retrouvé un disque de Charlie Parker.
D'accord.
Bon,
mais
alors,
ça reste un très grand musicien.
Bah, évidemment,
un immense musicien.
J'ai dit ça en plaisantant, mais
bah,
enfin,
oui.
C'est vrai que l'enregistrement remonte à 1950.
Oui, mais faites gaffe, parce qu'il y a nos amis de Swing FM qui rigolent pas, eux.
Oui, non, bah, on n'est pas là pour rigoler non plus, hein, Jean-François.
Non.
On est plutôt là pour se relaxer.
Voilà.
Alors, je voulais vous passer un morceau qui s'appelle Relaxing with Lee, qui est une composition de Charlie Parker. Bon, alors, il faut que je le recale au début, mais ça, c'est
The
toujours
Bird,
comme ça.
The Bird, c'est bien comme ça qu'on l'appelait. Charlie Parker, voilà.
Évidemment.
Voilà, The Bird.
Allez, et alors attendez, il n'est pas avec n'importe qui. Au piano, c'est Thelonious Monk.
Ah oui, d'accord, en effet.
Et à la trompette, un certain Dizzy Gillespie.
C'est pas vrai.
Bah, si.
Vous avez trouvé
allez,
ça. Formidable.
Allons-y.
Allez. Thank you.
hein, c'est un son vraiment typique.
On se demandait quelle était la part de la technologie de l'époque et quelle était la part de l'interprétation. Voilà. Nous n'aurons jamais la réponse, mais on se pose la question de temps en temps comme ça. Alors, premier livre de cette soirée, par Monica Sabolo, La vie clandestine, roman, c'est édité chez Gallimard dans la collection Blanche. Alors, c'est un livre assez curieux. Je dois vous dire que ce livre m'avait été recommandé par une amie qui me l'a prêté. Sinon, je crois que jamais je ne me serais laissé aller à plonger dans un livre qui m'a tout l'air d'être une espèce d'autobiographie géniale. C'est souvent le cas, publié dans la collection Blanche et Gallimard. Mais ce n'est pas le cas, heureusement. Alors, c'est un livre sur Action Directe. Alors, vous vous rappelez, Action Directe, c'était ce petit groupe de terroristes qui s'était livré à un certain nombre d'attentats, puis de meurtres. Alors, il y avait parmi eux, on a retenu principalement, donc Joël Aubron, qui est décédé, Nathalie Ménigon, qui a fini par sortir de prison après des années, parce qu'elle avait ramassé vraiment perpète, plus le max, et Jean-Marc Rouillant. Alors vous me dites, Francis...
J'ai fait une petite recherche, il a été en tôle de 87 à 2011, donc il est sorti en 2011.
Ouais, ouais. Il était sorti, puis il avait été réincarcéré de nouveau, parce qu'il avait été libéré en conditionnel, et il n'avait rien trouvé de plus malin à faire que de répondre au journaliste qui allait l'interviewer et à indiquer que à peu près qu'il ne regrettait rien. Enfin, j'exagère. Donc aussitôt, on a fait tomber sa conditionnelle et il a refait quelques années de plus. Voilà.
Voilà, il publie des bouquins régulièrement, notamment...
Il a écrit des polars, paraît-il.
Oui, le dernier qu'il a publié en 2018, 10 ans d'Action Directe, un témoignage.
Oui, c'est ça. Ouais. Alors, donc, Monica Sabolo nous parle d'Action Directe. Alors, il y a ceci de bien, c'est qu'elle n'a ni horreur, ni fascination. Horreur, parce que ces gens-là étaient d'authentiques, complets connards. Elle raconte de façon circonstanciée l'assassinat de Georges Besse. Georges Besse qui était le président de Renault, et qui était, mais le type même de la personne estimable de la méritocratie républicaine. Alors je crois que c'est quelqu'un qui était boursier, avec des parents très modestes, etc., qui est entré à l'école polytechnique après avoir eu des bourses pour aller en taupe, etc., puis après qui est devenu ingénieur jusqu'à devenir patron de la régie Renault. Et c'était un type qui, paraît-il, par exemple, repeignait lui-même ses volets. Il habitait boulevard Ingarquinet dans le 14e. Enfin, c'était vraiment pas du tout le grand patron arrogant à la Bolloré, vous voyez, pas du tout. Et c'est lui qu'ils ont fait ça. Et alors, avec un sang-froid, ils l'ont tué de je sais pas combien de balles, et ils l'ont achevé en plus, c'était affreux. Et ils ont commis de nombreux autres attentats. La police était après eux. Bien entendu, ils étaient pourris d'indicateurs, qui fait qu'ils ont été quand même assez vite arrêtés, en fait, etc., etc. Alors, je vous dis, pas de fascination. Vous savez, quelquefois... En particulier, les brigades rouges italiennes ont provoqué chez certains artistes une espèce de fascination. Il y a Marco Bellocchio qui a fait un film où il raconte la liaison entre un brigadiste qui est en prison et sa fiancée qui est une bourgeoise romaine, en fait, etc. Il y avait cette fascination. Là, c'est pas le cas, mais il n'y a pas de regret non plus si elle présente ça de manière très, très neutre. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elle met ça en parallèle avec sa propre vie, et qui est une vie assez étonnante dans la mesure où on a l'impression qu'elle n'a pas de père, mais pourtant elle en a un. Alors c'est quelqu'un qui travaille à Genève à l'Organisation Internationale du Travail ou un truc comme ça, c'est un fonctionnaire international. sa mère habite ailleurs, en Italie, à Florence, je crois. Elle-même voit son père de temps en temps qui passe. Voilà, donc une espèce de... Alors, elle, là aussi, il y a une sorte de froideur. Elle dit pas « Ah, ça me manque, j'aurais aimé avoir une image paternelle ». Non, elle dit que c'est comme ça. Même c'est comme ça, voilà. Bon, et alors, évidemment, elle met en relation les deux. Est-ce que ce manque total, ça a été aussi celui des gens d'Action Directe, alors qui, eux-mêmes, alors, pour Joël Aubron, et je crois, alors pour Jean-Marc Rouillard, je ne me rappelais plus, mais Joël Aubron était de grande famille. Hein, elle, voilà, c'est quelqu'un qui passait ses vacances dans des châteaux et voilà, ce qui n'était pas le cas de Nathalie Ménigon. Alors ça donne un livre qui nous ramène aussi à une époque, et on se rend compte que le terrorisme, c'est quelque chose qui a toujours existé, d'une part, alors à une moindre échelle que ce qui s'est passé avec les attentats de Charlie Hebdo. Mais tout de même, il y a eu de nombreux attentats terroristes entre Khaled Kalikal, Georges Ibrahim Abdallah, etc., etc. Donc il y en a eu beaucoup. C'est une espèce de vieille coutume. C'est très effrayant, mais c'est comme ça. Et puis ça nous montre que aussi la France a eu quelque part de la chance. Certes, on a eu notre lot d'attentats terroristes, mais on en a eu beaucoup moins que l'Allemagne. Vous vous rappelez que la RAF, die Rote Armee Fraktion, donc la fraction armée rouge allemande, avait quand même kidnappé, jugé, entre guillemets, et tué Hans-Martin Schleyer, qui était le patron des patrons allemands, que les brigades rouges italiennes ont enlevé et tué Aldo Moro, et la lumière n'a pas encore été faite là-dessus, car... Apparemment, les gens qui étaient au pouvoir à cette époque et qui étaient du même parti qu'Aldo Moro étaient ravis de pouvoir s'en débarrasser et ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que, en réalité, les Brigades Rouges le liquident. Apparemment, il savait lui aussi des choses sur ses camarades de parti. Mais voilà. Mais on a l'impression quand même que en France. L'attitude envers les gauchistes qui était très répressive, mais quand même beaucoup moins qu'en Allemagne ou en Italie, la présence d'une extrême gauche à peu près structurée, à peu près philosophiquement structurée, je dirais. C'est, par exemple, la Ligue communiste révolutionnaire, qui était des gens qui en avaient un peu dans la cervelle, a permis à la France d'échapper à ces grandes vagues qui ont eu lieu en Italie et en Allemagne. Alors voilà, La vie clandestine de Monica Sabolo, c'est aux éditions Gallimard dans la collection Blanche.
Donc pour poursuivre en musique, vous avez choisi un deuxième classique.
Alors,
c'est quelque chose d'assez rare aussi.
Alors là, une pièce de John Dowland, musicien anglais du début du XVIIe siècle, je crois, et donc qui est joué par un consort, c'est un groupe de musiciens qui se réunissent et voilà, ça s'appelle Padouane, ça doit être une danse de la région de Padoue. Voilà, alors petit groupe, c'était de John Howland, Padawan. John Howland, alors avec interprété par un groupe de musiciens qui sont regroupés sous le titre de Capriccio Stravaganza. Alors il y a des garçons et des filles qui jouent tous des instruments anciens. De la viole de gambe, de la viole de la viola da braccia, vous savez, celle qu'on tient comme ça, mais aussi du clavecin, voilà. C'est sous la direction de Skip Sempé, très connu comme claveciniste et excellent claveciniste, les autres un petit peu moins, mais ça va venir. Alors, est-ce que vous êtes sorti de votre période des 50s, Francis?
Pas tout à fait. Oh ben là, on va sauter 40 ans plus tard.
Oh là là.
Vous vous rendez compte?
Quel saut.
En 1990, Stan Getz, il était peut-être pas loin de sa fin de carrière de toute façon. Voilà, un enregistrement à Copenhague avec du beau monde, avec Kenny Barron au piano en particulier. Stan Getz, I'm okay. Ouais, c'est bien, ouais. Même si ça date quand même des années 90.
Bon, ben oui, mais...
Alors, un bouquin qui, lui, date des années 2020.
Alors, c'est un livre qui date des années 2023, fin 2022. Voilà, Jonathan Cole, Le Royaume des Unis. Alors, j'ai cherché tout à l'heure le titre original, c'est Bourneville. Et c'est une ville imaginaire qui se situe, en fait, près de Birmingham, puisqu'il y a une grande... Les chocolats Cadbury tiennent un assez grand rôle dans ce livre qui est un roman mais qui n'en est pas un. Alors voilà, Jonathan Coe, alors c'est marqué roman, c'est le cas de Jonathan qui a écrit beaucoup d'autres ouvrages dont certains excellents et très charmants. Il y en a un qui s'appelle La plage de Catskill, je crois, et qui est vraiment très bien. Alors, pas du tout le même genre. Bon, ce sont ces romans qui, à travers une série de personnages, racontent une page d'histoire. Et c'est une chose qui ne se fait plus. Vous savez, la littérature française, disons ça pour être un peu désagréable, se compose à peu près exclusivement de textes autobiographiques rebaptisés romans, écrits la plupart du temps par des femmes qui ont des problèmes existentiels et qui écrivent 180 pages là-dessus ou 190 pages là-dessus, et puis après passent à France Culture pour expliquer leur sort. Alors là, non.
Vous êtes méchant, il y a Pierre Lemaître quand même.
Non, mais il y a Pierre Lemaître, mais il y a aussi Nicolas Mathieu. Justement, j'allais en parler. Bon, et alors, ce sont des gens qui... donc, c'est le cas de Jonathan Coe, mais c'est le cas de quantité d'autres. C'est une page d'histoire du pays à travers des personnages. Et justement, vous m'évoquiez Pierre Lemaître. Alors, Pierre Lemaître, c'est en... Bon, c'est encore autre chose, c'est pratiquement des romans historiques, mais je pense à Nicolas Mathieu, oui. Leurs parents après, leurs enfants après eux, qui est un livre remarquable, et Nicolas Mathieu est quelqu'un de remarquable, j'ai eu l'occasion de l'entendre de nombreuses fois à la radio, et lui aussi... peint à travers des personnages, j'avais présenté ce livre sur cette même antenne, à travers des personnages, l'évolution d'une société, et ce sont ces gens-là qui l'expriment le mieux, qui l'expliquent le mieux. Bon, Jonathan Coe est anglais, donc c'est l'histoire d'une famille, de plusieurs familles en fait, ils habitent pas loin de Birmingham, dans un endroit qui s'appelle Bourneville, mais qui n'existe pas, mais voilà, et on les voit... Du début, j'allais dire du début du mariage des parents au décès de celui qui devient le père puis le grand-père, et au décès aussi de celle qui est la jeune femme et puis qui devient la grand-mère. Et cette Marie, donc, et on nous parle de... Pour bien expliquer ce que j'entends par là, ou des personnages de fiction, mais qui vous retranscrivent la réalité. La mère, donc Marie, elle est malade, elle est très âgée, et elle a une douleur terrible. Bon, elle sent bien qu'elle va mourir, mais on est en plein Covid. Et les règlements, qui sont aussi impitoyables en Angleterre qu'en France, les règlements font qu'il y a effectivement des gens qui vont la soigner et lui essayer d'atténuer un peu sa douleur, qui repartent et qui interdisent absolument aux enfants d'aller la voir, alors qu'ils savent très bien qu'elle va mourir. Et de fait, elle meurt dans la nuit. Et ses enfants n'ont pas pu ni la voir, ni... voilà. Il y a des gens qui viennent, qui l'emportent, qui la mettent dans un sac en plastique, et hop, voilà, par peur de la contagion. Alors, ces personnages, donc, qui traversent diverses époques, divers problèmes, par exemple, l'un d'entre eux, qui est musicien, il s'aperçoit, il a 20-25 ans, il s'aperçoit qu'il est homo. Alors, vous allez dire, maintenant, tout le monde s'en fout. Mais à l'époque, ce n'est pas le cas. Donc, s'apercevoir de ça, c'est... Bah, surtout en Angleterre, d'ailleurs, c'est s'apercevoir que bah, plein de difficultés existentielles vont se présenter. Voilà. Donc, c'est un problème pour lui. Et puis, c'est un problème pour sa famille aussi. Il y en a un autre qui épouse une femme qui est métisse. Et lui, c'est un peu un politicien. Et il travaille à Bruxelles. Il travaille à la commission, comme fonctionnaire à la commission. Et puis sa femme dit, ben, moi si je me présentais pour être députée européenne. Elle est élue comme députée européenne. Mais très vite, on va voir qu'elle va perdre son job, elle va perdre son boulot et son statut, parce que l'Angleterre vote pour le Brexit, et donc Bridget, c'est le nom de l'héroïne, se trouve là-dedans. Voilà. Donc c'est le charme et c'est l'intérêt de ce livre qu'il faut lire jusqu'au bout, parce que c'est une page d'histoire. Alors ça existait déjà, hein. Je pense aux cloches de Bâle d'Aragon, que si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est un chef-d'œuvre. Ah, bon. Je pense aux cloches de Bâle d'Aragon, mais il y en a eu beaucoup. Il y a eu aussi, vous savez, ces romans fleuves, La chronique des Pasquiers de Georges Duhamel, ou encore Les Thibauts de Roger Martin Dugard, ou encore Les Hommes de Bonne Volonté de Jules Romain, qui vous racontaient comme ça une page d'histoire à travers. Alors vous évoquiez Pierre Lemaître tout à l'heure, ben, c'est le cas aussi. Et c'est aussi le cas de Nicolas Mathieu. Voilà. Alors donc. Lisez ces livres-là qui nous font vivre l'histoire et qui recréent l'histoire peut-être mieux que les historiens. Voilà, ça s'appelle Le Royaume des Unis et c'est de Jonathan Coe. Si vous lisez bien l'anglais, ça s'appelle Bourneville. Là. Voilà, eh bien, c'est un disque qui avait été édité par Astréovidis pour le 20e anniversaire de l'ensemble Hesperion 20 de Jordi Savall. Et alors, nous avons écouté l'extrait d'une sonate d'un certain Johann Rosenmüller, dont je ne sais pas grand-chose. Voilà, c'était avec le groupe Hesperion 20 de Jordi Savall.
De Jordi Savall, qu'on a vu plusieurs fois.
Ah oui, il est venu. Oui, il est souvent
qui est,
venu.
Qui est quelqu'un d'extrêmement sympathique, oui, accessible.
Absolument.
Et tout en étant très...
Très fin musicien. Très fin. Ouais,
bon, bah écoutez, on va...
Alors on a le temps quand même d'écouter un petit...
Un petit jazz pour finir.
On va écouter
le quartet de Émile Parisien. C'est un disque qui avait été enregistré ici à Laborie, au château de Laborie,
oui,
en 2010.
Et oui.
Voilà, alors c'est une composition, non pas de Émile Parisien, mais de Julien Thuéry, qui est le pianiste, qui joue avec lui sur ce morceau.
Merde. Ok, ça tourne, Fifi.
Wouh.
1, 2, 1, 2 et 1. Thank you.
Alors, Émile Parisien et son quartet.
Ouais, c'est
et,
ça.
Voilà, et c'est un disque qui a été enregistré dans le studio d'enregistrement à Laborie, oui. Ah, mais ça fait bien longtemps.
Il est sorti en 2012, ça a dû être enregistré.
Oui, c'est un bon souvenir pour beaucoup d'entre nous, puis un souvenir un peu triste aussi pour les mêmes. En attendant, eh ben, cette émission est terminée.
Et oui, vous voyez, on a fait le grand saut spatio-temporel.
Saut spatio-temporel,
hein,
incroyable. Entre Charlie Parker.
Charlie Parker.
Et où est-ce qu'il a enregistré? On sait, on le sait. Non.
Qui, Charlie Parker?
Ouais.
Bon, attendez.
Non, mais attendez, ça n'a pas.
Non, j'en sais absolument
non,
rien.
C'était... Vous savez, on va faire comme Jean-Christophe Averti, qui donnait les numéros de matrice, les numéros de série, etc. Non, on n'est quand même pas aussi maniaque.
J'ai pas retrouvé.
On va dire qu'il a enregistré au Blue Note.
Oh, allez, non, c'était pas ça, c'était au Birdland.
Voilà.
Et ben voilà. Ouais,
voilà. Je savais que vous.
Bon. Et puis.
Et puis, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine, toujours sur RTF.
D'accord.
Merci Francis. Bonne semaine.
Salut Jeff. Thank you.